Et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Bon vendredi 28 septembre 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Vous avez passé un beau jeudi soir?
Oui, oui, oui.
Oui? Vous ne pouvez pas en dire plus?
Ben là, je faisais de la radio hier soir, je me suis couché relativement tôt.
Oui.
Comme d'habitude.
Bon, OK, c'est parce que je voulais que vous me demandiez si moi j'avais passé un beau
jeudi
soir.
Et vous, Hélène, avez-vous passé un beau jeudi soir?
Ah, merveilleux, bon. Maurice, merci, ouais. Parce que je suis allée voir une pièce, ça faisait longtemps que je n'avais pas aimé une pièce de théâtre comme ça. Ça se passe au Centre du théâtre d'aujourd'hui. C'est la pièce 9, entre parenthèses, titre provisoire, avec, entre autres, Marc Messier,
Henri Chassé. 9 comme le chiffre ou 9
nouveautés?
Oui,
9 comme le chiffre. Okay. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, là, mais vraiment, c'est une création et ça vaut le détour 100 fois. C'est jouissif. On rit beaucoup, mais on est souvent aussi très ému. J'y reviendrai au courant de la semaine prochaine, promis, mais j'ai passé une belle soirée. Ça fait du bien de sortir, de voir du théâtre. Et c'est les Journées de la culture en fin de semaine.
Ouais,
il y a plein
là,
d'activités gratuites.
Ben,
profitez-en.
Ça commence
aujourd'hui.
Oui,
oui, oui. C'était pas dans vos éphémérides.
Non, ben ça change d'une année à l'autre. Les dates changent.
Aujourd'hui, c'est bon, les dates.
On présume.
Oui, parce qu'on a fait une sorte de mélange.
Ouais,
il y avait des bons éphémérides, puis il y en avait d'autres. Non, vous avez souhaité bonne fête à Gilles Vigneault un mois à l'avance.
Oui, ouais, entre autres.
Oui, parce que c'est
au moins,
pas le
pas
27
mourir,
septembre.
Pas pire,
non, ça aurait été pire. Ça a déjà arrivé, hein, des gens qui ont fait
TVA.
Mourir.
On laisse ça à TVA. On ne les nomme pas, là. Mais...
Moi, je vous laisse ça à vous. OK, allez-y.
Langsale. Je parle de moi.
Je sais.
C'est le 28 septembre, c'est la Journée internationale du droit d'accès à l'information. Très important, le droit d'accès à l'information, donc pour mourir intelligent, tiens, et vivre intelligent aussi. Quelques événements. En 1542, le navigateur portugais Juan Rodrigues Cabrillo devient le premier Européen à percevoir la Californie. Ah, violetaire, j'imagine, à moins qu'il était navigateur, donc il devait être dans le Pacifique. Pour voir la Californie, en tout cas. L'histoire ne le dit pas, mais mon deux lignes ne le dit pas. En 1924, deux avions militaires américains, oui, se posent à Seattle après avoir bouclé le premier tour du monde. 1962, de la base Vandenberg en Californie, une fusée Thor Agena lance le premier satellite canadien, le satellite Alouette. En 1970, la commission présidée par Florence Bayard Byrd propose diverses mesures pour combattre la discrimination contre la femme au Canada. C'est quand même assez récent, hein, c'est horrible. Seulement 1970. En 1972, à Moscou, avec 34 secondes à jouer, un but de Paul Anderson donne au Canada une victoire de 6-5 face aux hockeyeurs soviétiques, au terme de ce qu'ils ont appelé la série du siècle. On parle de hockey, évidemment. En 1978, Albino Luciani meurt d'une attaque cardiaque après avoir été pape pendant seulement 33 jours. On l'a connu sous le nom de Jean-Paul Ier. Il y a des rumeurs, comment ça se fait qu'il est mort après 33 jours. C'est une vraie crise cardiaque, en tout cas. Je laisse ça aux fans des théories du complot.
Jésus-Christ aussi est mort. Lui, pas à 33 jours, mais à
33
ans.
À 33 ans, Il y a 30 ans de différence. Il y a 30 ans de différence, au-dessus de 33 ans. En 1981, par un vote de 7 contre 2, la Cour suprême du Canada établit que le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau a le droit de demander unilatéralement le repatriement de la Constitution. En 1994, le traversier Estonia coule de nuit en mer Baltique avec un millier de personnes à bord et le naufrage va faire 900 morts. En 1995, le premier ministre israélien Israël, Rabin et Yasser Arafat signent à Washington un accord d'extension de l'autonomie palestinienne en Cisjordanie. 2001, la Bourse de Montréal met fin au commerce des actions remontant à 1874 pour s'en tenir aux obligations et produits dérivés. L'archevêque de Québec, Marc Ouellet, a été nommé cardinal en 2003 et en 2007, le dollar canadien atteignait la parité avec le dollar américain, donc clôture en haut de 1 dollar US. C'était la première fois que ça arrivait depuis le 25 novembre 1976. On souligne la naissance aujourd'hui de l'acteur italien Marcello Mastroianni. Il naissait en 1923, il nous a quitté en 1996. Et le producteur américain de spectacle Ed Sullivan. C'est par lui qu'on a découvert les Beatles en Amérique. Lui, il était né en 1902, il nous a quitté en 1974. Beaucoup de décès aujourd'hui. En 2010, l'animateur de radio et télévision Serge Belair nous quittait, succombait à un cancer. Il était né en 1940, donc à l'âge de 70 ans. Althea Gibson, la première noire à gagner les tournois de tennis Wimbledon et des États-Unis en 57 et en 58, nous quittait. Alors en 2000, dont on en parlait, Pierre Elliott Trudeau, lui, nous quittait aussi. Ancien premier ministre du Canada, il était né en 1919. Miles Davis, lui, en 1991, nous quittait. Trompettiste de jazz. Le poète français André Breton nous quittait en 1966. En 1902, l'écrivain français Émile Zola. 1895,
wow. Le
médecin.
Il y en a beaucoup.
Oui, il en reste deux.
mais je ne dis pas ça dans ce sens-là, mais ce sont tous des personnalités
qui ont légendaires. Absolument. En 1895, le médecin et chercheur Louis Pasteur nous quittait. Et enfin, Herman Melville, le romancier américain à qui on doit Moby Dick, lui, nous quittait en 1891.
On s'ennuie de ces personnages.
Mais on peut les lire encore, pour certains.
Ouais, ou les écouter. À la une de la presse aujourd'hui, une enquête, le jeu qui tue. Au moins 401 joueurs pathologiques ont mis fin à leur jour depuis que l'Auto-Québec a déployé ses appareils dans les bars. Autopsie d'un fléau. Émouvant Cour suprême des États-Unis, le témoignage de Christine Blasey Ford empêchera-t-il la nomination du juge Kavanaugh? La chronique de Marie-Claude Lortie à ce sujet, la nouvelle crédibilité. Affaire Onon 9, nouvel univers signé La Liberté, Guy La Liberté, pose Chic, La Belle et le Beau, nos directeurs invités, Marie-Pierre Morin et Patrick Wimbor qui parlent mode, maquillage, botox, design, etc. Une enquête approfondie, un dossier de Katia Gagnon et de William Leclerc sur le jeu qui tue. Alors, il y a plusieurs chapitres à cette enquête. Désespoir extrême, un fléau pour la société. Les maudites machines ont pris ma vie. Je vais vous lire quelques extraits. Manon G. avait 49 ans quand elle a mis fin à ses jours dans son domicile de Sainte-Sophie. C'était en 2002. La mère de famille avait des problèmes de jeu depuis des années et avait suivi plusieurs thérapies. Sa lettre de suicide était d'ailleurs parfaitement explicite. « Les maudites machines ont pris ma vie ». Le cas de Mme G. est loin d'être anecdotique. La presse a pu dénombrer 401 rapports de coronaires qui rapportent des suicides de joueurs pathologiques depuis 1995. En moyenne, 18 joueurs par année. À 90 % des hommes ont mis fin à leur jour depuis 22 ans, soit autant que le nombre... soit autant que le nombre moyen de cyclistes tués chaque année sur les routes du Québec. Le décompte des décès année par année, réalisé par la presse, montre que le tournant des années 2000, de 1999 à 2004, a été une période sombre pour les joueurs pathologiques. Or, c'est au cours de ce laps de temps, indiquent les chiffres de l'Auto-Québec, que l'on a atteint le pic maximal dans le nombre d'appareils de loterie vidéo dans les bars et les casinos, soit entre 14 000 et 15 000 appareils, en excluant quelques cas d'acheteurs compulsifs de billets de loterie ou d'adeptes des tables de jeu au casino. La quasi-totalité des joueurs qui ont mis fin à leur jour étaient accros aux appareils de loterie vidéo ALV. À la lecture de ces données, on note une augmentation spectaculaire des suicides entre 1998 et 1999. Cependant, précise le chargé de recherche au bureau du coroner, Paul-André Perron, il n'est pas possible de tirer de ces données une conclusion hors de tout doute, puisque les dossiers de suicide impliquant des joueurs pathologiques ont pu être mal colligés dans la banque de données avant 1999 et donc oubliés dans le décompte. Au total, le nombre de suicides de joueurs pourrait donc dépasser les 401 que nous avons comptabilisés. Bien que les dépendances aux drogues ou à l'alcool soient plus fréquentes, la dépendance aux jeux ne peut être exclue. Il faut cependant savoir que plusieurs facteurs contributifs au décès sont habituellement identifiés lors d'un suicide, souligne Mme Lambert-Roy, Joanie Lambert-Roy, porte-parole du bureau du coroner. D'autres problèmes liés à la santé mentale, comme la dépression par exemple, font souvent partie de l'équation. Chose certaine, des coronaires ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises sur l'importance croissante du problème du jeu pathologique. Au total, 11 coronaires différents ont souligné au cours des années la gravité du problème et interpellé directement l'Auto-Québec. L'Auto-Québec a réagi à notre enquête en réaffirmant sa préoccupation face au problème du jeu pathologique. L'Auto-Québec est très sensible à tout ce qui touche les problèmes de jeu pathologique, d'autant plus lorsqu'il s'agit de l'un des facteurs pouvant mener une personne à poser un tel geste. Est-ce qu'on peut donc en conclure que le gouvernement du Québec a manqué de prudence lors de la légalisation des appareils de loterie vidéo au milieu des années 90? On n'a pas été assez rapide pour mettre en place des mesures, croit M. Tremblay. Si je compare avec la situation actuelle, qui est la légalisation du cannabis, il y a beaucoup de préparation cette fois-ci. Les gens sont formés pour affronter l'impact. On n'a pas fait suffisamment ça avec le jeu. On a été naïfs. Alors, si vous avez des problèmes avec le jeu, l'organisme Jeux, Aide et Référence peut vous aider. Je vous donne les numéros de téléphone 514-527-0140, 514-527-0140 ou 1-800-461-0140, 1-800-461-0140. Et si vous avez des pensées suicidaires, il y a la ligne 1-866-APPEL qui offre un service confidentiel et gratuit sur tout le territoire du Québec. Malgré le témoignage crédible et émouvant de Christine Blasey Ford devant la commission judiciaire du Sénat, Brett Kavanaugh a préservé hier ses chances de succéder à Anthony Kennedy à la Cour suprême des États-Unis. Accusé d'avoir tenté de violer la professeure de psychologie alors qu'ils étaient adolescents, le juge de 53 ans a offert à son tour un témoignage chargé d'émotions où il s'est montré combatif et colérique, qui a convaincu la majorité républicaine du Sénat d'aller de l'avant avec les votes nécessaires à sa confirmation à la plus haute instance judiciaire américaine. Le premier de ces votes sera tenu dès ce matin à 9h30. Y participeront les 21 membres de la commission judiciaire du Sénat, 11 républicains et 10 démocrates. Un vote final doit avoir lieu mardi prochain. Y prendront part l'ensemble des sénateurs. Un nouvel univers financé par Guy Laliberté. Imaginez qu'avant même de produire son premier Star Wars, Lucas avait publié des romans et bandes dessinées exploitant l'idée de la force. Ou que le jeu vidéo Assassin's Creed, alors qu'il n'était qu'un concept en 2006, pouvait déjà compter sur des milliers de fans obsédés par ses énigmes. C'est la démarche peu orthodoxe dans laquelle se lance le studio montréalais Reflector, filiale de Lune Rouge et copropriété de Guy Laliberté et d'Alexandre Amancio, créer un univers avant que les œuvres soient réalisées. Pour assumer ses ambitions, l'entreprise déménagera en décembre dans des étages spécialement aménagés de la maison Alcan, rue Stanley. De 80 employés présentement, on prévoit passer à 150 dans un an, puis 300 dans deux ans. Alors, Unknown Nine sera présenté officiellement au monde entier la semaine prochaine à New York à l'occasion du Comic-Con, le grand rendez-vous annuel de la culture pop axé sur la science-fiction, la bande dessinée et le jeu vidéo. En quoi consiste Unknown Nine? Le concept de cet univers est basé sur une ancienne légende de l'Inde selon laquelle il y aurait 9 immortels cachés qui détiennent toutes les connaissances de l'univers. Ce sont eux les 9 inconnus. Remise au goût du jour avec un groupe de sages comprenant hommes et femmes, cette légende a été réécrite en une mythologie hyper complexe élaborée par Reflector dans une Bible de 150 pages. Tout le jeu autour d'Unknown Nine, à travers les films, livres, jeux et plateformes web, consiste à retrouver cette sagesse. Le cercueil du président vietnamien Tran Dai Quang, décédé la semaine dernière d'un virus rare, a été transporté hier lors d'une grandiose procession funéraire à travers Hanoï pour un dernier hommage à ce partisan de l'aile dure du Parti communiste au pouvoir. Il avait 61 ans.
Cousine par Mélissa Laveau.
Alors, j'aimerais apporter une précision à propos du dossier Le jeu qui tue. À la question, est-ce qu'on peut donc en conclure que le gouvernement du Québec a manqué de prudence lors de la légalisation des ALV, les appareils loterie vidéo, au milieu des années 90? Et c'est M. Tremblay qui répond, on n'a pas été assez rapide pour mettre en place des mesures. M. Tremblay, c'est Joël Tremblay, qui est professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En une du devoir maintenant de ce vendredi 28 septembre, déjà le dernier vendredi du mois de septembre, tout va vite. Christine Blasey Ford, au moment de prêter serment avant d'entreprendre son témoignage devant le Sénat américain, on la voit donc en photo. L'émotion à fleur de peau, la présumée victime et l'aspirant juge à la Cour suprême maintiennent leur version devant le Sénat au cours d'une séance particulière. Aussi, une partie du Bloc, le Bloc québécois, se détache du PQ, le Parti québécois. Montagne noire, mort au retour du combat. Un hommage sera rendu aux victimes de l'écrasement survenu il y a 75 ans. La communauté de Saint-Donat, dans la Naudière, soulignera cette fin de semaine le 75e anniversaire de l'écrasement d'un bombardier canadien au sommet de la Montagne noire, l'une des pires tragédies de l'histoire de l'aviation royale canadienne. La chronique de José Blanchette, on veut, entre parenthèses, pas que ça change, le procès du statu quo. Parle ici d'élections provinciales et actualité trop proscrire pourrait nuire à la santé publique. « Le juge et son accusatrice, entendus jeudi par le comité judiciaire du Sénat américain, les États-Unis et le monde, ont livré des témoignages surchargés d'émotions pendant une séance qui restera certainement dans les annales du Capitole. La journée extraordinaire a permis d'entendre deux versions totalement différentes et complètement irréconciliables, livrées par deux témoins submergés par les sentiments et le ressentiment. L'audience publique a duré quelques 9 heures et tourné en bataille rangée autour d'événements datant de 36 ans. Une femme devenue professeure accuse un homme, maintenant magistrat, de l'avoir agressée sexuellement quand elle était adolescente. L'accusé jure de son innocence. L'enjeu, la nomination du juge à la Cour suprême des États-Unis. La professeure d'université, Christine Blasey Ford, a avoué d'entrée de jeu qu'elle était terrifiée par l'exercice. Elle accuse le candidat de la Maison-Blanche à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh, de l'avoir agressé sexuellement quand ils étaient tous deux adolescents, au début des années 1980. La démarche publique a encore mis en évidence la particularité du système de nomination des juges à la Cour suprême aux États-Unis. Le processus médiatisé et très politisé permet les prises de bec féroces et des coups de théâtre de la 11e heure. Le comité sénatorial pourrait passer au vote pour décider du sort du juge Kavanaugh. Dans les prochains jours, il suffira de deux votes républicains négatifs pour bloquer sa nomination. Selon certains décomptes, 45 élus de ce groupe avaient fait leur choix avant l'audience de jeudi. Que le Sénat vote, a écrit le président Trump dans un gazouillis en début de soirée jeudi, tout de suite après la clôture de l'audience. Il a défendu son candidat sans un mot pour Mme Blasey Ford. Le Bloc québécois a dû désavouer la poignée de bloquistes de Québec qui ont donné leur appui aux candidats locaux de Québec solidaire. La direction du Bloc soutient résolument le Parti québécois, a-t-il tranché. Mais cette sortie de l'association de la circonscription de la capitale laisse présager que la faille qui avait divisé la famille bloquiste depuis un an n'est pas tout à fait colmatée. L'association bloquiste de la circonscription de Québec a causé la surprise hier matin en invitant tous les électeurs indépendantistes du coin à appuyer les candidats de Québec solidaire, Catherine Dorion et Sol Zanetti. Leur discours décomplexé et rafraîchissant pave la voie à une nouvelle génération de députés francs et déterminés, faisait valoir la page Facebook du Bloc à Québec. La co-porte-parole solidaire Manon Massé n'a pas perdu de temps pour s'en réjouir. Ça montre que QS rassemble, a-t-elle dit, ravie, avant de prendre la route pour les circonscriptions de Taschereau et Jean Lesage, justement. Mais à peine quelques heures plus tard, le quartier général du Bloc québécois y est allé de sa propre mise au point sur Facebook. La position de l'exécutif du Bloc québécois de la circonscription de Québec ne représente pas la position de l'ensemble du Bloc québécois. L'ensemble des députés du Bloc québécois appuie et travaille activement pour les candidats du Parti québécois. Le devoir prendra position. Certaines traditions traversent les époques, écrit Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef au Devoir. Donc, certaines traditions traversent les époques, mais s'adaptent à l'ère du temps. Par exemple, celle d'un éditorial politique précédant un scrutin, ainsi que le Devoir s'y adonne depuis ses tout premiers pas au début du 20e siècle. Il s'y adonnera de nouveau dans l'édition de samedi, ainsi que l'équipe éditoriale menée par le directeur Brian Miles en a décidé. La tradition anglo-saxonne de l'édito, comme le veut le jargon journalistique, est toujours bien présente. Dans certains médias, l'éditorial n'est pas signé en guise de reflet parfait d'une position de groupe. Au Devoir, chacun d'entre nous signe ses écrits, mais nous discutons tous les matins en équipe des sujets du jour et déterminons ensemble la position commune. Certes, les temps changent, les temps ont changé. Elle est derrière nous l'époque de l'édito, du journal de combat, mais il apparaît encore pertinent en 2018 pour des éditorialistes qui se sont prononcés pendant 4 ans sur tous les menus et grands enjeux liés à la campagne électorale, de prendre la parole le jour dit. L'éditorial n'engage toutefois que l'équipe éditoriale et se détache entièrement de sa rédaction, dont le travail journalistique s'effectue en toute indépendance et recherche d'objectivité. Thank you. La nouvelle convention collective des employés syndiqués de Radio-Canada a beau avoir été acceptée par une forte majorité de 81 %, certaines clauses encadrant le travail des nombreux employés temporaires du diffuseur public font grincer des dents chez ces derniers. Un article particulier de la nouvelle entente, surnommé la clause du 5 minutes, cristallise aux yeux de plusieurs l'attitude qu'on réserve aux employés temporaires. Pour un remplacement devant être pourvu en moins de 24 heures, les employés, s'ils ratent l'appel de Radio-Canada, ont un maximum de 5 minutes pour donner signe de vie, après qu'on leur eût laissé un message. Après deux manquements dans une année civile, l'employé peut recevoir des sanctions. « Franchement, c'est la mesure qui nous choque le plus », raconte l'employé qui a gardé l'anonymat. « On se demande s'ils se rendent compte de ce que ça implique pour nous, d'être comme ça en attente, de savoir qu'ils peuvent nous appeler n'importe quand et de ne pas être payés pour ça. » La direction de Radio-Canada, par l'entremise du directeur des communications Marc Pichette, n'a pas répondu concrètement aux questions du devoir sur les raisons et l'application de la clause des 5 minutes. La nouvelle convention collective d'une durée de 3 ans qui sera ratifiée la semaine prochaine touche environ 3000 membres syndiqués de Radio-Canada au Québec et à Moncton. Et M. Pichette a écrit « Tous les employés de Radio-Canada sont importants, peu importe leur statut d'emploi ». C'est dans un courriel que M. Pichette a envoyé donc ce communiqué, ajoutant que le diffuseur n'avait pas à commenter publiquement le contenu de l'entente avant de l'avoir présenté au personnel concerné. Un attentat terroriste majeur a été déjoué aux Pays-Bas, selon le parquet néerlandais qui a annoncé jeudi l'arrestation de 7 hommes soupçonnés de vouloir passer à l'acte lors d'un grand événement afin de faire de nombreuses victimes. Au cours d'une enquête qui a duré plusieurs mois, la police a observé un groupe terroriste gravitant autour d'un homme d'origine irakienne âgé de 34 ans, condamné en 2017 pour avoir tenté de se rendre en territoire contrôlé par le groupe État islamique, a-t-il poursuivi. Les suspects prévoyaient de perpétrer l'attentat à l'aide de ceintures explosives et de Kalachnikov AK-47 lors d'un événement et de faire exploser une voiture piégée à un autre endroit, a précisé le ministère public. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand.
my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, rocket man.
Rocketman par Elton John.
Elton John qui a amorcé sa tournée d'adieu et partout il passe, il a des ovations qui durent des minutes et des minutes et on le comprend parce que c'est un monstre sacré dans le milieu de la musique pop. Ça, c'est une de mes chansons préférées, je pense. C'est de Elton John qu'il a créé avec Bernie Taupin, son collaborateur très, très précieux. Alors, allons-y donc avec le Journal de Montréal à la une d'aujourd'hui. Considéré comme un danger public, un dentiste qui arrache ou qui en arrache patiente engourdie à vie, cancer non détecté à temps, traitement avec de l'eau de Javel, trop d'anesthésiants. Aussi, le choc des idées, un paysage politique éclaté, José Legault, la chance de Couillard, Antoine Robitaille, les comptes sûrs des libéraux, Mario Dumont. À quelques jours du jour J, donc jour d'élection, c'est lundi, 1er octobre. Allégations de viol contre un candidat, les Américains rivés à leurs écrans. Danseurs victimes d'intimidation, ils n'ont pas froid aux yeux. Alors, il s'agit de préjugés qui subsistent à l'encontre des jeunes garçons qui choisissent la danse. J'ai vécu au primaire beaucoup d'intimidation, confie Tommy Durand, danseur de 16 ans, découvert à Révolution dimanche soir. Un dentiste célèbre pour ses publicités du Centre d'implantologie, Marc Tremblay, vient d'être radié d'urgence par son ordre professionnel qui le considère comme un danger pour le public. La conduite de l'intimé observée, principalement entre 2012 et 2018, est inquiétante et grave, écrivent les membres du comité de discipline dans leur décision. Le docteur Tremblay ne s'est pas opposé à sa radiation provisoire. Son avocate a toutefois tenté d'éviter que l'avis de radiation soit publié, comme c'est la procédure habituelle. Elle disait craindre que cela nuise à d'éventuels acheteurs de la clinique, de même qu'à ceux qui continuent d'y pratiquer. La demande a été rejetée. Les faits reprochés à Marc Tremblay donnent froid dans le dos. Le copropriétaire de la clinique, lequel a souvent fait l'objet de publicité dans les médias, aurait entre autres mis en danger une patiente en utilisant trop d'anesthésiants, omis de s'occuper d'une infection et utilisé de l'eau de Javel pour des traitements jugés hors normes. Tornade en Outaouais, c'est déjà aujourd'hui que ça fait une semaine. Des sinistrés relocalisés à 170 km, des personnes âgées et des familles démunies victimes du manque de chambres d'hôtel dans l'Outaouais. Bernard Gervais, 75 ans, dort depuis vendredi dernier dans un dortoir avec des dizaines d'autres personnes. Malgré tous ses efforts, la Croix-Rouge a été incapable d'offrir à cet ancien chauffeur d'autobus une nuit à l'hôtel. « Il y a tellement de monde en avant de moi sur la liste, dit-il. Il y a les familles, les personnes handicapées, ensuite les vieux. Environ 80 personnes sont actuellement hébergées dans un centre communautaire aménagé par la Croix-Rouge. L'organisme a trouvé un hôtel à une centaine d'autres sinistrés. Mais ces derniers doivent parfois se déplacer jusque dans les Laurentides pour trouver une chambre libre. Quatre familles ont temporairement élu domicile à Saint-Jérôme, à 170 km de Gatineau. » On offre des chambres d'hôtel beaucoup plus loin pour en avoir plus, confirme un porte-parole de la Croix-Rouge, Pascal Mathieu. Certains déclinent l'offre à cause de la distance. L'éloignement n'effraie toutefois pas M. Gervais. J'irai définitivement. Qu'il m'envoie à Montréal, ça ne me fait rien. Une belle douche, un bon lit, ça ferait mon bonheur, confie celui qui souffre de diabète et de haute pression. Il meurt en tentant de sauver son employé. Le propriétaire d'une ferme laitière a perdu la vie mercredi soir à Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, en tentant de sauver son employé qui reposait inconscient au fond d'un silo de grains. L'employé de 23 ans, d'origine guatémaltèque, était allé faire des vérifications dans le réservoir de stockage de la ferme Rodville-Holstein. C'est lui qui a chuté le premier. Il était allé voir pour savoir combien il restait de stock dans le silo parce qu'il voulait en remettre, explique Silvio Rodrigue, le frère d'une des victimes, Danny Rodrigue. Aussitôt, un autre employé, également d'origine guatémaltèque, a alerté son patron. Il l'a vu tomber dans le silo. Il est allé chercher mon frère Danny, qui était dans le garage, pour l'avertir que son collègue était tombé dans le silo. Selon la direction de santé publique, tout fourrage mis en silo représente un risque de production de gaz d'oxyde d'azote. Chaque année, des travailleurs sont intoxiqués et au moins un décès a été rapporté entre 2012 et 2016 en Montérégie. La tragédie qui a coûté la vie à M. Rodrigue, 45 ans, et à son employé de 23 ans, a grandement secoué le petit village Beauceron d'à peine 600 âmes. Le fermier était très connu et très apprécié. Des milliers d'usagers de la ligne de train de montagne ont subi mardi des retards de près de 50 minutes parce qu'une voiture de la police de Montréal s'est engagée sur les rails et est restée coincée vers 15h10. Les agents répondaient à l'appel d'une dame perdue depuis plus de 3 heures dans le parc nature du bois de Saraguay dans l'arrondissement d'Hantic-Cartierville situé près de la ligne. L'autopatrouille a été remorquée en moins de 30 minutes et la femme a été secourue. Les usagers du train de deux montagnes doivent composer avec un service qui se détériore depuis plusieurs mois en raison des travaux du futur réseau express métropolitain. Grâce à une motion du Bloc québécois, le Parlement a voté unanimement hier la révocation de la citoyenneté honoraire de la chef birmane Aung San Suu Kyi, une première dans l'histoire du pays. Hier après-midi, le député bloquiste Gabriel Sainte-Marie s'est levé en Chambre des communes pour déposer une motion révoquant la citoyenneté de la controversée chef d'État. Celle-ci a ensuite été approuvée à l'unanimité par les parlementaires fédéraux. Aung San Suu Kyi était la quatrième personne de l'histoire canadienne à recevoir une citoyenneté honoraire au pays. Mais devant le traitement réservé aux musulmans Rohingyas dans l'État de Rakhine en Birmanie, que plusieurs qualifient de nettoyage ethnique, Les appels à la révocation de la citoyenneté d'honneur canadienne à la dirigeante du pays se sont multipliés dernièrement. Et cinq mois après la vente de 30 journaux de Transcontinental à la firme Métromédia de l'homme d'affaires Michael Raffoul, quatre d'entre eux ont cessé leurs activités, trois ont réduit leur fréquence de parution et deux ont fusionné. L'Express d'Outremont et l'Express de Mont-Royal ont publié leur dernière édition hier. Pendant l'été, le Plateau et le Progrès de Villeray, Parc Extension, avaient discrètement fait de même. Cette dernière publication a été remplacée par le mensuel Quartier V, qui contient de la publicité locale, mais pas de contenu local. C'est mal pour la démocratie parce qu'on se complétait, réagit René Soudre. Fondateur de l'Express d'Outremont en 92, il est aujourd'hui éditeur d'un concurrent, le Journal d'Outremont. De plus, trois journaux, Nouvelles, Hochelaga Maisonneuve, La Voix Pop et le Courrier Bordeaux-Cartierville sont désormais publiés toutes les deux semaines. Enfin, le Messager de Verdun et le magazine Île des Sœurs ont fusionné.
Quand j'aurai coupé la ficelle.
Charlotte Gainsbourg, Le chat du café des artistes.
Un des classiques de Jean-Pierre Ferland, dans la voix acadienne, Chaque enfant compte, journée du chandail orange. Le dimanche 30 septembre, le Canada soulignera la journée du chandail orange en se rappelant les séquelles des pensionnats indiens sur la communauté autochtone. La journée du chandail orange permet aux insulaires et à toute la population canadienne de réfléchir à ce que les survivants des pensionnats ont vécu, d'en tirer des leçons et de se rassembler dans l'esprit de la réconciliation, en espérant que l'avenir sera plus inclusif et juste pour tous. La journée rend aussi hommage aux milliers de survivants comme Phyllis, à leur famille et à ceux et celles qui ne sont plus avec nous. Phyllis, entre parenthèses, Jack Webstadt. Aujourd'hui, nous nous rappelons les mauvais traitements subis par Jack Webstadt et des milliers d'autres enfants pendant qu'ils vivaient dans les pensionnats de dire le premier ministre Wade McLaughlin. C'est une période sombre de l'histoire du Canada. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons y faire face chaque jour. Ces événements s'inscrivent à notre histoire collective. Nous sommes donc tous chargés de poursuivre la sensibilisation et d'avancer ensemble dans l'esprit de la réconciliation. Dans Acadie Nouvelle, Mathieu Roy-Comeau, c'est une nouvelle parue hier. Les résultats des élections provinciales de ce lundi 24 septembre au Nouveau-Brunswick et la décision du premier ministre sortant Brian Gallant de rester en poste, même si ses adversaires ont fait élire plus de députés, suscitent beaucoup de questions. L'Acadie Nouvelle, le quotidien francophone de cette province, en a posé quelques-unes à deux experts. Le Parti libéral a remporté la pluralité des voix, 37,8% contre 31,9%, mais pas la pluralité des sièges, qui est plutôt allée au Parti progressiste conservateur de Blaine Higgs, 22 à 21. L'Alliance des gens, 12,5%, et le Parti vert, 11,8%, ont remporté 3 sièges chacun. Le NPD chute à 5% du vote. Au moins 25 sièges sont nécessaires pour former un gouvernement majoritaire. Que se passe-t-il? Brian Gallant peut-il toujours revendiquer le titre de premier ministre? Oui, selon l'expert en droit constitutionnel Pierre Thibault de l'Université d'Ottawa. Un premier ministre qui vient de subir une défaite et qui obtient un pourcentage de vote assez important peut continuer à gouverner tant et aussi longtemps qu'il a la confiance de l'Assemblée législative, explique-t-il. Afin de conserver cette confiance, M. Gallant devra se soumettre à un vote de l'Assemblée législative lorsque celle-ci reprendra ses travaux. L'exercice s'avéra toutefois périlleux, avance M. Thibault, puisque son parti ne compte que 21 députés contre 28 pour les 3 autres partis réunis. S'il se présente à l'Assemblée législative au cours des prochaines semaines, il peut perdre la confiance de la Chambre, auquel cas il devra démissionner, prévient le vice-doyen de la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Que se passe-t-il si Brian Gallant renonce au poste de premier ministre ou perd la confiance de l'Assemblée? C'est à ce moment que la lieutenante-gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau entre en jeu. Normalement, la lieutenante-gouverneure devrait demander au chef de l'opposition, Blaine Higgs, de tenter de former un gouvernement. Il devrait prendre quelques semaines pour essayer de le faire et s'allier avec les tiers partis pour tenter à son tour d'obtenir la confiance de la Chambre, explique Pierre Thibault. Si M. Higgs obtient cette confiance, nous aurons un gouvernement conservateur minoritaire au Nouveau-Brunswick pendant une certaine période, jusqu'à ce qu'il soit battu en Chambre. S'il est battu, il y aura un déclenchement des élections. Qui est responsable au Nouveau-Brunswick ces jours-ci? À titre de greffier du Conseil exécutif de 2010 à 2014, Byron James a été à la tête de la fonction publique néo-brunswickoise. Durant les élections, c'est au greffier que revient la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement, explique le fonctionnaire à la retraite. Dans la situation actuelle, c'est aussi vrai, après les élections. La greffière du conseil exécutif, Jody Wagner, demeure la fonctionnaire la plus haut placée à la tête de la fonction publique. Le travail au jour le jour continue comme toujours en attendant que les questions politiques soient résolues, affirme M. James. Dans le rempart de Windsor, la Commission de la santé mentale du Canada, CSMC, a annoncé le 12 septembre dernier le lancement de son nouveau programme de formation sur la santé mentale destiné particulièrement aux policiers, en vertu d'un nouvel accord avec la police provinciale de l'Ontario, OPP. Premier soin en santé mentale est une formation destinée à ceux et celles qui viennent en aide aux personnes qui sont en train de développer un problème de santé mentale ou qui traversent une crise de santé mentale. La nouvelle adaptation du cours, désignée sous le nom de PSSM Police, Premier soin en santé mentale Police, a été élaborée en partenariat avec les services de police et des experts en santé mentale de partout au Canada et répond aux appels pour une mise à la disposition de la police de plus de ressources pour promouvoir la santé mentale. Nous sommes très heureux, en tant que conseillers de confiance sur les questions de santé mentale et de bien-être, de poursuivre notre travail avec la police provinciale de l'Ontario, a affirmé Louise Bradley, présidente et directrice générale de la CSMC, donc la Commission de la santé mentale du Canada. L'élaboration d'outils pratiques comme celui-ci est possible grâce au soutien du gouvernement du Canada et nous sommes fiers de jouer notre partition pour mieux outiller la police à servir nos communautés. Plus de 6 000 membres du personnel de la police provinciale de l'Ontario seront formés en PSSM Police au cours des 2 à 3 prochaines années sur la base d'un modèle de formation des formateurs. La CSMC formera les premiers instructeurs de la police provinciale de l'Ontario plus tard ce mois-ci. Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amerjit Soui et Randy Boissonneau, député d'Edmonton Centre, ont lancé vendredi 14 septembre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, un plan de mobilisation pour élaborer une stratégie de croissance régionale avec et pour les Canadiens de l'Ouest. C'est dans le Franco .ab.ca qui donne des nouvelles de l'Alberta, avec 208 millions de dollars investis sur 5 ans pour la promotion du développement et de la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, le gouvernement est déterminé à bâtir un avenir économique dynamique dans l'Ouest canadien, a déclaré d'emblée Amerjit Soui, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods. L'idée de cette stratégie de croissance est de bâtir une feuille de route pour renforcer l'économie à travers un soutien des industries. Concrètement, l'objectif principal est double en Alberta, faire croître l'économie et créer des emplois pour la classe moyenne. Invités à faire part de leurs idées en ligne, les Albertains auront jusqu'à l'automne pour tenter de contribuer à façonner cette stratégie de croissance de l'Ouest canadien. À cette période, des tables rondes seront organisées dans des grandes villes de l'Ouest canadien. Ainsi, des leaders d'opinion, des peuples autochtones, des membres de collectivités rurales, des nouveaux immigrants, des représentants d'entreprises et de divers ordres de gouvernement participeront à faire avancer ce grand chantier économique. Bon vendredi à tous. Restez avec nous dans un moment, un grand classique de Charles Aznavour, suivi de suggestions de sorties pour le week-end en cette fin de semaine qui s'annonce riche en activités culturelles, puisque ce sont les journées de la culture qui s'amorcent dès aujourd'hui. À tout de suite.
Je n'aurais jamais cru rencontrerais le hasard est curieux, il provoque les choses et le destin pressé
un instant, prends la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté. Et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors, ce mariage, entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. J'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'écris 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin
d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible. Si tu n'as rien oublié, comme moi qui n'ai rien oublié.
Non, je n'ai rien oublié, Charles Aznavour.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Jusqu'à dimanche, les journées de la culture prennent tout l'espace scénique. Il y a beaucoup, beaucoup de suggestions sorties. Il y en avait hier dans la presse, aujourd'hui c'est dans Le Devoir. Pour la première fois en 30 ans, l'Office national du film ouvre ses studios au public juste avant son déménagement au centre-ville. Au moyen d'ateliers, on pourra découvrir ses créations, ses archives et les métiers techniques du cinéma comme mixage, bruitage, en plus de participer à un circuit extérieur bilingue avec Héritage Montréal sur l'histoire et l'architecture de son édifice. Ça, c'est dimanche de 10h à 15h au 3155 Chemin de la Côte de Liesse à l'Union. Maintenant, une autre suggestion, à l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, l'heure est à l'écriture numérique. Avec particules, correspondances inattendues, des correspondances seront écrites en direct sur Twitter et animées par Charles Prénemont. C'est demain de 13h à 15h à la Maison des écrivains, située sur la très belle avenue Laval, 3492. C'est une sortie, une activité qui se passe en français. Au Québec, à Québec, dis-je bien, il sera possible de découvrir les orgues emblématiques du Vieux-Québec dans un parcours à pied entre la chapelle des Jésuites de Québec, la cathédrale Holy Trinity et le palais Montcalm, et les marcheurs seront accueillis en grande musique par les organistes ces dimanches de midi à 16h au 995 Place Diouville. En Abitibi-Témiscamingue, on vous transporte d'abord à Ville-Marie au Témiscamingue. Des auteurs lancent un marathon d'écriture de 6h où ils initieront les curieux à différents styles littéraires, dont la poésie et l'écriture fantastique. C'est dimanche, de 13h à 19h, au 42 rue Sainte-Anne. Et la Valorifête, c'est à Gatineau, une exposition recyclard urbain qui va permettre de voir les œuvres d'une dizaine d'artistes faites de matériaux recyclés. Le vernissage a lieu aujourd'hui à 18h. C'est au 330 rue Notre-Dame à Gatineau. Les artistes se mouillent. Plusieurs ont donné leur appui à un parti politique. C'est dans le Journal de Montréal. Marc Labrèche derrière Jean-Martin Hossan du Parti québécois. Richard Desjardins derrière Catherine Dorion de Québec solidaire. Chloé Sainte-Marie derrière Marguerite Blais de la Coalition Avenir Québec. Le boxeur Eléder ou Eléder Alvarez derrière Saul Polo du Parti libéral. Comme à chaque élection, les vedettes sont nombreuses à donner leur appui publiquement à un candidat ou un parti politique. Encore une fois, la majorité des artistes qui s'associent à un parti politique appuient le Parti québécois, même s'ils sont de plus en plus nombreux à afficher leur sympathie pour Québec solidaire. Ce n'est pas une situation surprenante, selon le spécialiste de l'image Jean Gosselin. Le PQ a longtemps été le parti des artistes, notamment à cause de l'option souverainiste à l'époque. Ce n'est pas étonnant que les artistes soient plus attirés vers la gauche que vers la droite. Généralement, plus on s'en va vers la droite, moins on a tendance à s'afficher, dit-il. À ses yeux, c'est inévitable.
Thank you.
19-2 aux États-Unis, CBS développe une adaptation américaine du drame québécois. Contrairement à ce que rapporte la presse américaine, aucun contrat n'a encore été signé, nous précise toutefois le producteur Jocelyn Deschênes. Ce n'est pas encore réglé, mais les discussions avancent bien, déclare le président fondateur de Sphère Media, joint au téléphone. Jocelyn Deschênes confirme que H-Town brosserait le portrait de deux policiers de Houston, au Texas, qui font équipe pour élucider une affaire aux ramifications aussi complexes qu'insoupçonnées. Choisi pour représenter le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, l'excellent film de Sophie Dupuis reprend l'affiche dès aujourd'hui au cinéma Quartier Latin de Montréal. Une belle occasion de voir sur grand écran ce drame puissant dont les têtes d'affiche sont Théodore Pellerin, Maude Guérin et Jean-Simon Leduc. $3,1 million recettes engendrées aux États-Unis et au Canada par Fahrenheit 11-9, le plus récent pamphlet de Michael Moore lors de son premier week-end d'exploitation. Un résultat bien en deçà des attentes parce qu'en 2004, Fahrenheit 9-11 avait obtenu un box-office de $23,9 million en trois jours avec deux fois moins d'écran. Hey, Grand Dude! C'est ainsi qu'un des 8 petits-enfants de Sir Paul McCartney s'est un jour adressé à son célèbre grand-père. Le nom lui est resté et a inspiré l'ex-Beatle à écrire un livre qui s'adresserait à un jeune public. Dans Hey, Grand Dude, un grand-père au pouvoir magique fait vivre toutes sortes d'aventures à ses 4 petits-enfants. L'album qui doit paraître en septembre 2019 sera illustré par la Canadienne Catherine Durst, une artiste établie à Toronto qui a plusieurs livres pour enfants à son actif. Il s'agit du deuxième album pour enfants de McCartney, qui a publié High in the Clouds, un livre au message écolo. C'était en 2005. Marie-Mé en tournée. Son nouveau disque n'est pas encore sorti, que Marie-Mé annonce déjà une troisième supplémentaire du spectacle qu'elle présentera au Centre Bell au mois de février. Aux dates du 15 et du 16 qui étaient déjà prévues, s'ajoute celle du 14. La chanteuse pop en a profité pour annoncer aussi une tournée de plus de 50 dates qui l'amènera partout au Québec, à compter de mars 2019 et ce jusqu'en janvier 2020. Les billets pour la supplémentaire du 14 février et pour la tournée seront en vente à compter de samedi à midi. Quant au sixième album de Marie-Mé, il sera lancé le 9 novembre. Richard Therrien, dans Le Soleil, et c'est publié aussi dans la presse, écrit « Il y a péril en le penthouse à XOXO ». L'émission qui devait représenter la nouvelle ère de la télé-réalité n'a rallié qu'un maigre 435 000 téléspectateurs mercredi à TVA. Une semaine plus tôt, 679 000 étaient au rendez-vous pour la première. De 19h30 à 21h, XOXO a même été battu par ses deux rivales d'ici Radio-Canada Télé, a commencé par l'épicerie, suivi par 535 000 fidèles, puis par les enfants de la télé, vus par 618 000 personnes. Il ne serait pas étonnant de voir TVA déplacer XOXO dans sa grille afin d'atteindre un plus vaste public.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid. au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leur melon de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
C'est en septembre par Gilbert Bécaud.
Septembre qui tire à sa fin. Et c'est en septembre qu'un séisme de magnitude 7,5 a secoué vendredi aujourd'hui même l'île des Célèbes dans le centre de l'Indonésie, suivi d'un tsunami qui a notamment touché la ville de Palu. Le tremblement de terre a déclenché la panique chez les habitants qui ont fui dans les rues pour se réfugier plus en hauteur selon des images de télévision locales. C'est un véritable tsunami qui a frappé Palu, a confirmé Ramat Triyono, responsable du Centre pour les tremblements de terre et tsunami à l'Agence indonésienne de géophysique sur la chaîne de télévision Kompas. Les autorités n'ont pas publié de bilan de victimes alors que ce séisme de 7,5 selon l'Institut américain USGS est d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de 3 grandes plaques tectoniques, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le 26 décembre 2004, l'Indonésie a été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la région, dont 160 000 en Indonésie. Grève à la SAQ aujourd'hui. Les 5 500 employés des magasins et des bureaux de la Société des alcools sont aujourd'hui en grève. Ils se réuniront également pour une assemblée générale afin d'établir leur stratégie pour la suite des choses. Ils voteront sur un autre mandat prévoyant 18 journées de grève, a précisé Katia Lelièvre, présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, au cours d'une entrevue avec la presse canadienne. Il s'était déjà doté d'un mandat de 6 journées de grève à utiliser au moment jugé opportun et ils ont déjà débrayé durant une journée en juillet, en août et durant 2 journées au début de septembre. Tim Hortons tentera de faire fermer un établissement en Inde qui utilise un nom et une image de marque très similaires à ceux de la chaîne de café de Bang, le restaurant Tim Hortons, H-O-T-T-E-N-S, de Yamunanagar. Son logo et sa marque semblent imiter ceux de la célèbre chaîne canadienne. La police et la couleur du nom dans son logo sont presque identiques. Tim Hortons utilise également l'expression « toujours frais » ainsi que le fond rayé de couleur rouge dans son logo. Tim Hortons n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Même si nous croyons que l'imitation est souvent la forme la plus sincère de flatterie, nos normes sont très élevées en ce qui concerne notre marque, la qualité de nos produits et le service que nous fournissons à nos clients. A affirmé une porte-parole de Restaurant Brand International, la société mère de Tim Hortons. D'autres idées sorties? Si vous aimez l'art contemporain ou vous avez envie de vous y sensibiliser jusqu'à dimanche de 11h à 19h, vous avez rendez-vous au Square Dorchester, René Lévesque et Peel, où vous pourrez découvrir 21 jeunes artistes et mieux comprendre leur travail grâce à 9 médiateurs qui vous guideront. Sensibilisation à l'art contemporain, découverte artistique en famille. Aussi, jusqu'à samedi, le TAZ présente plusieurs compétitions dans le cadre de la grande finale de The Border AM. Seront présents des skateboarders qui pourraient bien compétitionner aux Jeux olympiques de 2020, alors que ce sport sera représenté pour la première fois. Vendredi de 11h, c'est commencé, jusqu'à 18h, compétition à partir de 14h. Demain, de 10h à 19h, les compétitions commencent à 13h. C'est gratuit pour tout le monde, pour les spectateurs. Et le TAZ est situé au 8931 8931 rue Papineau. Walter Boudreau ouvre la 53e saison de la Société de musique contemporaine du Québec avec un grand concert, Musique au pluriel du feu, qui rendra hommage à 2 piliers de la musique contemporaine au Québec disparus récemment, Gilles Tremblay et François Morel. C'est dimanche à 15h à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. Le public est aussi convié à une activité animée par Chirine Tarouni dès 14h. Et exposition d'antiquités, si vous êtes amateur, voilà une occasion de sortir de la ville et aller admirer ou acheter de belles pièces de notre patrimoine québécois. Ça se passe à l'Érablière, à la Grillade, c'est à Saint-Alphonse-de-Grenbey. Tarif d'un jour, 7 $. Évaluation d'antiquités, c'est dimanche de 13h à 15h. Et ça coûte 4 $. Sport, l'organisation qui gère le sport universitaire au Canada, a dévoilé une nouvelle politique d'inclusion pour les étudiants athlètes transgenres. L'organisation a indiqué que la politique entrait immédiatement en vigueur dans ses 56 établissements membres à travers le pays. Selon la nouvelle politique, les étudiants athlètes pourront concourir au sein de l'équipe qui correspond à leur genre biologique ou à leur identité de genre, pourvu qu'ils soient en conformité avec le programme antidopage canadien. La politique approuvée n'est pas conditionnelle à ce qu'un étudiant athlète se soit soumis à une hormonothérapie pour être autorisé à concourir au sein d'une équipe qui correspond à son identité de genre. Jim Furyk a regardé les membres de son équipe jouer avec confiance tout en étant détendu lors des derniers jours, deux ingrédients qu'il espère voir aider les Américains à mettre un terme à une disette de 25 ans sans victoire à la Coupe Ryder. Les drapeaux ont été levés, les hymnes nationaux ont été interprétés et les partisans ont crié jusqu'à tard dans l'après-midi jeudi, signalant la fin des préparatifs d'une Coupe Ryder opposant deux des meilleures formations assemblées par les États-Unis et l'Europe. La pression est unique lors de ce tournoi de 28 matchs sur 3 jours. Malgré leur victoire il y a 2 ans à Azeltin, les Américains savent qu'ils n'ont pas gagné en sol européen depuis 1993 à The Belfry. Ça complète l'émission d'aujourd'hui, vendredi 28 septembre 2018. Je vous souhaite une bonne et belle dernière fin de semaine de septembre. On se retrouve lundi, ce sera jour d'élection. J'espère que vous serez au rendez-vous pour voter et au rendez-vous à mon émission. Ici Hélène Denis, bon week-end, profitez-en bien. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical.